Une semaine formidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Et bonsoir, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro d'une semaine formidable. Nos invités cette semaine, Éric Firiguer, Olivier Deniaux, Grégory Stig. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Et merci d'être avec nous. On va commencer, une fois n'est pas coutume, par le football, puisque l'on va parler de l'équipe de France qui a terminé sa tournée aux États-Unis un peu moins de 3 mois maintenant du coup d'envoi de la Coupe du Monde. Une victoire, c'était vendredi matin, me semble-t-il, 2-1 face au Brésil, et puis une victoire ce matin, 3-1 face à la Colombie. Des matchs qui veulent dire quelque chose ou pas forcément, Eric ?
Ça veut toujours dire quelque chose quand on gagne. Parce que
l'essentiel, même si... c'est les 3 points, oui, comme disait.
Ça paraît une lapalissade, ce que je dis, mais c'est important. Alors, Didier Deschamps ne voulait pas de ces matchs-là, et on peut facilement le comprendre. Un très gros déplacement aux États-Unis, beaucoup de contraintes, un déplacement uniquement organisé pour le sponsor. Donc, c'était pas très intéressant pour lui. Maintenant, ça lui a permis de faire une belle revue d'effectifs. Et c'est intéressant, comme je disais, quand on gagne, mais parce que, même si évidemment, ça n'aura pas d'incidence sur la Coupe du Monde, bien sûr, mais un peu de confiance, ça ne fait pas de mal. Et qui plus est, avec ces deux matchs amicaux, on a pu, une fois n'est pas coutume, j'ai pas peur de le dire, on a vu du bon jeu. Mm-hmm. On a vu de très belles actions, on a vu beaucoup de mouvements. C'était très sympa, et pour le coup, c'est très enthousiasmant, je trouve. Voilà, avec le deuxième match, comme on a appelé ça avant, le match des coiffeurs. mais avec, là aussi, de bonnes choses. Beaucoup de joueurs se sont montrés sous un beau visage. Donc c'était intéressant. Je pense que ce déplacement n'était pas inintéressant.
Olivier ?
Oui, alors... Moi, je trouve que ces matchs, pas amicaux, hein, des matchs de préparation,
ce qui est complètement différent.
Aujourd'hui, ce sont des matchs de préparation. Donc, je pense que Didier Deschamps a pu faire une revue de ses effectifs.
Et les Colombiens l'ont bien montré ce matin, pardon,
de te couper,
que c'était pas un match amical.
Ils connaissent pas le match amical en Colombie.
Non, les Uruguayens non plus. Si vous avez vu l'Uruguay jouer, ça rigole pas. Mais il a fait sa revue d'effectifs. Il a commencé contre le Brésil avec 4 attaquants devant, donc pour montrer qu'il pouvait jouer avec ces 4-là. Parce que bon, il aura plus son pivot qui était Olivier Giroud à l'époque. Alors, il en a trouvé un autre, non, mais on est d'accord.
Sous la main,
mais en attendant, il a pu faire jouer donc Mbappé avec Dembélé, Tiki-Tiki, et puis le dernier, là, j'ai plus le nom, le quatrième.
Olise,
voilà, le petit nouveau qui arrive, donc les quatre, et puis après, il a remis. Voilà, donc il a refait sa revue d'effectifs. D'autre part, ils ont vécu ensemble pendant une bonne semaine, donc c'est toujours important de voir comment se comporte un groupe en dehors du terrain, voir les comportements des uns des autres quand tu les mets sur le banc, comment ça se passe, etc. Mine de rien, contre le Brésil, ils ont pris un carton rouge, donc ils ont été obligés de se réorganiser, et ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc quelque part, t'apprends aussi de l'adaptation. Alors moi j'ai fait, à propos d'adaptation, le maître mot de Didier Deschamps, les quelques conférences où j'ai participé dans le plan coach pour qu'on préparait les Jeux de Paris, Didier Deschamps est intervenu 2 fois, et son maître mot c'était être adaptable. Toujours adaptation, parce que ça se passe jamais comme on l'a prévu. D'autant plus quand c'est un sport collectif avec des adversaires. Hein. Bon, un gars qui fait un 100 mètres, normalement, tu maîtrises un truc. Mais là, sport court, on ne sait pas. Bon, bref, je continue. Le lieu, ils ont pu quand même repérer l'hôtel. Ils ont été sur l'hôtel, ils ont vu comment ça se passait, mine de rien. Ils ont pris des repères. Et ils ont pris un hôtel différent, parce que je crois que lors du dernier championnat d'Europe, c'était plutôt fermé. Les joueurs avaient l'impression de vivre en
autarcie.
En vase clos, autarcie. Là, c'est ouvert vers l'extérieur. Mais quand je dis ouvert, ça sera fermé au public. Hein.
On est d'accord.
Et puis, dernière chose, alors ça m'a un peu choqué, mais je ne sais pas s'il y aura des pauses fraîcheurs. Ils appellent ça des pauses fraîcheurs.
C'est prévu.
Mais là, c'est des pauses publicitaires qu'il y a eu.
Bien sûr.
Exactement.
Mais pour moi, ça change complètement.
Tous les joueurs s'en plaignent.
Ça casse le rythme.
45 minutes, voire avec, c'est pas 2 fois 25. Au bout de 25 minutes, si tu mets 5 minutes ou 3 minutes, parce que ça dure plus longtemps que ça, tu mets 5 minutes de repos, ça change, ça peut changer une phase. Hein.
Oui. Faut pas oublier qu'on est aux États-Unis où les sports US ça joue en carton.
C'est
pour ça en fait.
C'est pour ça qu'il faut revoir aussi la configuration peut-être des matchs. Si il y a ces pauses, il y aura des pauses fraîcheurs parce qu'il fera chaud. Donc c'est bien d'avoir testé aussi en match parce que ça peut changer la physionomie quand t'es en train de dominer et que tu mets ton adversaire sous pression. bah, la pause fraîcheur, entre guillemets, ça peut permettre de tout changer. Donc je pense qu'il y a eu quand même pas mal de petites choses, des petits détails que Didier Deschamps a pu observer. Et faut pas oublier que le très haut niveau, c'est vraiment c'est des petits détails qui font la différence parfois. Quoi. Et
Grégory, ouais, après Eric.
Et ils ont pu se rendre compte aussi sur un plan extra-sportif de comment ça va se passer aux États-Unis, parce que contrairement aux dernières Coupes du Monde ou aux derniers championnats d'Europe, c'était des distances très très courtes entre les villes, et ce qui fait que même s'il y avait des obligations médias, on en a entendu parler là, à chaque fois, bah, ça consommait pas trop l'énergie des joueurs, que là, de ce que j'ai compris, ils avaient des obligations avec le sponsor qui était à 45 minutes du lieu où ils s'entraînent. Donc on fait le bus, y a l'événement, on revient. Il y a un match là qui était le premier, il était à Boston, le deuxième à Washington. Je crois que c'est quelque chose comme 500 km entre les villes. Enfin, c'est des distances qui sont hyper importantes. Ça va un peu leur rappeler la Russie pour le coup. Espérons que ça leur porte chance. Mais ça va vraiment changer la façon aussi de préparer les matchs en amont, en prenant tout ça en compte.
Eric.
Olivier le sait mieux que nous. La performance, c'est quoi? C'est l'addition d'un certain nombre de pourcents. Alors ça pourrait être 100%, mais en fait c'est ça, c'est l'addition de pourcents qu'on va aller chercher dans l'entraînement, dans la préparation physique, dans la préparation mentale, évidemment dans le talent, en l'occurrence là, des joueurs de football bien évidemment, mais aussi dans la préparation matérielle. Évidemment que quand ils se déplacent comme ça, le staff va voir un peu ce qui se passe, comment sont organisés les lieux, etc. Là c'est encore mieux puisque les joueurs, on va dire 80-90% des joueurs seront présents à la Coupe du Monde, donc ils s'en sont rendus compte, et même si ce n'est que 1%, 2%, les repères qu'ils ont pu avoir, etc., les renseignements qu'ils ont pu prendre, eh ben c'est des pourcents un pourcentage qui à la fin peut compter. Alors évidemment que ça ne n'assure pas d'une victoire finale, mais au moins ça donne un maximum de chances d'avoir le 100% de ses capacités pour gagner. Donc c'est très important.
Et est-ce que vous pensez les uns les autres que Didier Deschamps a déjà la compo des joueurs qu'il va amener avec lui
Il a dit qu'il avait 80% de ses... Enfin, il a dit 20 sur 25, et je pense qu'il en a peut-être 22 ou 23 sur 25.
C'est ça. Ouais. Sauf blessure ou surprise de quelqu'un qui finit la saison en boulet de canon, Didier Deschamps, il nous a habitués à chaque fois à avoir des groupes. Ou même si un joueur sous-performe, il va quand même le prendre pour la cohésion et parce que le joueur a eu l'habitude d'évoluer avec le reste du groupe.
L'habitude est importante, effectivement, pour pouvoir, au moment de la compétition, où c'est là, effectivement, qu'il faut tirer le meilleur de soi-même, et ben justement, les joueurs qui ont l'habitude, qui ont déjà ce vécu au plus haut niveau, ce vécu de ces compétitions-là, pour lui, c'est très important. À titre personnel, je pense qu'il a raison.
Olivier, c'est important d'amener comme ça ce qu'on appelle les joueurs de vestiaire, même si on sait que ça ne va peut-être pas forcément performer, mais on a l'habitude d'être en équipe de France.
On l'a vu, je prends l'exemple d'Adil Rami, on sait qu'il n'a pas joué un seul match en Russie, et puis il est champion du monde, et c'est lui qui était l'ambianceur de l'équipe. C'est vrai que c'est important, cette cohésion de groupe que Didier Deschamps a instaurée depuis longtemps. Ça avait commencé à l'époque d'Aimé Jacquet en 98, quand il avait instauré ses fameuses stage d'hiver, là, quand ils allaient au ski à Tignes, avec leur famille, etc. Et c'est vrai que quand on va passer un mois ensemble, enfin je dis un mois, ça, c'est peut-être plus, je ne sais pas combien de temps ils vont passer ensemble avant la Coupe du Monde. Donc il faut vraiment qu'il y ait une cohésion et puis qu'il ait prévu ses temps aussi de relâchement avec les familles à un moment donné. Donc ça s'anticipe, et c'est vrai que le petit grain de sable qu'on peut voir au début d'un séjour, ça a vite fait de se transformer en caillou dans la chaussure et faire des grosses ampoule, et à un moment donné, ça t'empêche de marcher. Tu vois.
Ouais, c'est ça, un gars qui voudrait pas monter dans un bus ou un truc comme ça.
Le grain de sable, il vaut mieux l'éliminer au début. Tu vois. Et c'est vrai que des fois, ben, les sélectionneurs, parce qu'attention, c'est pas une équipe de club, le sélectionneur préfère laisser un bon joueur de côté parce qu'il sait que ce bon joueur, s'il le met pas titulaire ici, parce que c'est des gars qui ont un ego mais surdimensionné, j'imagine, les footballeurs aujourd'hui, ils sont adulés de partout, mais tu sélectionnes pas. Alors je vais prendre des anciens exemples. Que certains connaissent, tu prends pas David Ginola et Eric Cantona dans une équipe quand tu sais que t'as des joueurs qui vont se friter. Il vaut mieux se passer de David Ginola et de Eric Cantona et être champion du monde sans eux. Et puis il y avait d'autres, il y avait Benzema à un moment donné. Est-ce que c'est ces raisons-là? Je fais pas partie des intimes, mais j'imagine qu'à un moment donné, il y a dû y avoir des querelles. On l'avait vu, si on remonte à 2010, on voit ce que ça a donné, l'addition. On a vu dans tous les clubs, moi j'ai l'exemple, J'ai remonté à l'Antiquité, du Matra Racing, pour ceux qui se rappellent du Matra Racing qui était monté en Ligue 1. Ils avaient fait une addition de super joueurs où il y avait Olmeta dans les buts, Lidbarski qui était champion du monde avec l'Allemagne, Luis Fernandez, Maxime Bossis, je ne sais plus qui il y avait encore. Ils sont redescendus en deuxième division, alors que c'était une équipe de milliardaires avec des joueurs qui avaient été champions du monde. Mais l'osmose ne faisait pas. C'est comme une mayonnaise, à un moment donné, il faut mettre les ingrédients au bon moment. Enfin, je ne suis pas cuisinier en plus, non, c'est un très mauvais exemple que je prends. Si ma femme écoute, elle va dire « Qu'est-ce que tu racontes? Tu parles de mayonnaise, tu n'es même pas capable de faire cuire un œuf. » Alors, c'est bon, laisse tomber, c'est bon. Passe la main.
Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin, dire « Bon, la Coupe du Monde, on va la jouer. » Est-ce qu'il y a moyen pour cette équipe de France d'aller au bout et d'afficher une troisième étoile?
Eric, je pense que tout le monde sera d'accord autour de cette table. Elle est naturellement, et au vu de ce qu'elle a montré ces dernières années, elle est naturellement une des favorites. Après, elle n'est pas la seule, et puis il ne suffit pas d'être favori évidemment pour aller au bout. Là aussi, c'est facile de le dire, mais c'est la vérité. Mais par contre, effectivement, si la France joue sur son niveau avec ce quatuor offensif et avec ce que Deschamps sait très bien faire, c'est-à-dire préparer une équipe pour une grande compétition, si elle fait...
D'autant que ça sera la dernière pour lui.
Absolument. Donc il voudra forcément finir. Mais il aurait fait la même chose s'il n'avait pas été la dernière. Mais si elle joue sur son niveau, je ne vois pas aujourd'hui une sélection plus forte que la nôtre. Alors après, il peut se passer tellement de choses dans un match, dans une Coupe du Monde, on l'a dit juste avant. Mais si elle joue sur son niveau, elle a les moyens de la gagner.
On a des vrais problèmes de riches. On disait ce matin, le match, c'est le match des coiffeurs. Excusez-moi, mais Thuram, titulaire à l'Inter Milan. Désiré Doué, titulaire au Paris Saint-Germain et champion d'Europe. Enfin, je sais pas ce que c'est que les coiffeurs, mais
c'est du Jacques Desanges là. N'Golo Kanté.
N'Golo Kanté, donc fait le taf. Certes, qui en plutôt sur la fin de sa carrière, mais qui fait toujours le boulot.
Qui fera le boulot.
Il a eu du mal à rentrer dans le match, mais après, il a fait le taf.
Avec
derrière,
une super rentrée de Lacroix de Crystal Palace.
Ça tient la route derrière.
Voilà, c'est ça. Vraiment une très très belle découverte. Donc il y a encore la place de faire rentrer un ou deux joueurs. Je sais pas ce qu'il aura décidé. Malheureusement, il pourra pas prendre tout le monde.
C'est ça. Et pareil, le quatuor qui est censé être titulaire. Mbappé titulaire au Real Madrid, Ekitike titulaire à Liverpool, Olise titulaire au Bayern Munich et Dembélé titulaire au PSG. Ouais. Donc,
Et en plus, c'est des joueurs qui... Ça tourne les week-ends en championnat.
Il n'y a pas grand monde sur le papier qui tient le
C'est pour ça que moi j'entends même, au niveau des bookmakers, je me demande si la France n'est pas numéro 1 au niveau des favoris. Quoi. Donc ça, c'est un rôle que Deschamps a l'habitude de tenir. Après, va falloir assurer.
Et le groupe a l'air de bien vivre. On en a parlé un petit peu avant, mais c'est aussi une des clés de la réussite. Il n'y a pas encore d'assurance tout risque, mais c'est quand même un point très important.
Voilà pour les matchs amicaux, les matchs de préparation de l'équipe de France. Préparation, pas matchs amicaux. Il y avait aussi des matchs de qualification pour la Coupe du Monde, des matchs de barrage, et notamment celui de la Nouvelle-Calédonie, vendredi après-midi, face à la Jamaïque. Alors, pour être très honnête, tout le monde s'attendait à ce que les Calédoniens prennent une panse, finalement. Ça se termine sur 1-0 pour les Jamaïcains.
Je les voyais difficilement se qualifier, même si, encore une fois, on est 11 contre 11 et la Nouvelle-Calédonie ne manque pas de ressources et de qualité, donc c'était possible. Mais je ne les voyais pas se prendre une fessée, c'est ce qui n'est pas arrivé, d'ailleurs, donc c'est très bien. Ça leur laisse des regrets. On est quand même assez loin d'une Coupe du Monde, quand même, malgré tout, il faut le dire. Voilà, même si sur ce match-là, 1-0, ça aurait pu, pourquoi pas, aller un petit peu plus loin, mais contre un pays africain derrière, c'est compliqué. Alors les joueurs, évidemment, avaient bien raison d'y croire, hein, sinon on ne va pas jouer. Mais il manque encore un petit...
Sur ce match-là, pour l'avoir regardé, il y a quand même des regrets à avoir. Il y a quelques actions qui auraient pu faire basculer le match, mais c'est ce qui fait la différence entre... les joueurs qui ont l'habitude de jouer au niveau et nous, où les joueurs ne sont pas professionnels, donc c'est déjà pour eux une aventure extraordinaire, et même pour la Calédonie d'avoir été représentée à un tel niveau avec une aussi belle image, parce qu'en plus il y a pas mal de fait de jeu. Alors on va pas critiquer l'arbitre, mais les joueurs sont pas tombés dans la frustration de s'énerver, etc. Et ça, je pense pour le sélectionneur aussi, c'est un
ils ont,
de bon point.
Ils ont montré une très belle image. Mmh. Ça, c'est vrai que ça c'était important.
Au-delà d'ailleurs, le public avait pris parti pour l'équipe de Nouvelle-Calédonie. Hein, si vous avez vu, enfin entendu, moi j'avais suivi. Et c'est vrai que il y a pas eu beaucoup de fautes sifflées en faveur des Cagous.
La première faute sifflée pour la Calédonie, c'est à la 95e minute.
On est d'accord, ouais, c'est ça.
Donc quand même.
Et puis, c'était un match quand même dans un stade, en tout cas pour les plus anciens, mythiques. Oui. On en parlait avant de rentrer en studio.
Guadalajara, France-Brésil 86. Moi, j'ai été en barbecue, c'était fin d'année, j'étais en étudiant STAPS à l'époque, et je me rappelle du pénalty raté de Platini, mais celui de Luis Fernandez.
Luis
Fernandez qui marque et qui revient vers le banc de touche.
Mais comme je dis toujours, c'est une très belle aventure pour eux, mais il faut que ça leur serve. Si c'est juste pour avoir vécu une aventure et puis passer à autre chose, c'est pas la peine, je pense. Mais si effectivement ils s'en servent, le football calédonien se sert de cette aventure-là pour progresser et pour se donner un petit peu plus de chance d'année en année de pouvoir participer à pourquoi pas une Coupe du Monde.
Et c'est peut-être plus simple d'en tirer quelque chose quand on prend pas une fessée finalement.
Oui, et puis en plus là je vois c'est pas mal structuré, il y a tous les jeunes qui vont régulièrement au championnat du monde U17, il y a je crois que les espoirs les moins de 20 étaient aussi partis l'année dernière, les filles commencent aussi à avoir des résultats, donc petit à petit ces joueurs vont s'aguerrir à jouer à haut niveau dans les catégories de jeunes, mais j'espère pour eux qu'ils seront recrutés aussi pour aller jouer un peu comme tous les joueurs jamaïcains, néo-zélandais ou australiens, pourquoi pas en Europe, parce que enfin, les Australiens, néo-z, ils jouent en Angleterre, et puis aller jouer, bon, ils jouent en National 3 en ce moment, mais je pense qu'ils auraient peut-être certains un niveau National 2 ou National 1.
Et c'est là où on reparle malheureusement de l'impossibilité aujourd'hui de faire une équipe professionnelle en Nouvelle-Calédonie. Contrairement à ce qui se fait maintenant dans la zone, dans le Pacifique, puisqu'il y a un championnat maintenant professionnel, et l'obligation est faite aux clubs qui veulent participer d'être professionnels, s'il y en a un Tahiti, avec des joueurs calédoniens d'ailleurs, et on n'est pas pour l'instant en capacité de le faire en Nouvelle-Calédonie, et je pense que la progression du football calédonien pourrait, je pense, passer par là.
Encore un mot sur les éliminatoires à la Coupe du Monde. Donc, c'est terminé pour la Nouvelle-Calédonie. Mais on peut pas parler d'Italie.
On parle beaucoup des Italiens.
Oui, je sais bien, Eric.
La MotoGP.
Mais enfin bon, c'est pas gagné quand même pour les Italiens.
Alors, ils peuvent commencer à caresser l'espoir d'une qualification. Ça fait quand même deux Coupes du Monde où on voit pas les Italiens. Donc, je pense que si ce ma femme, qui est italienne, sera contente et
si
moi aussi par la même occasion je vais pouvoir sortir mon maillot de l'Italie.
Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire dans un premier match qui était tout sauf facile. Alors évidemment qu'un 4-0 ou un 5-0 aurait été forcément préférable pour aborder le match retour, mais gagner 2-0 dans ces conditions-là, justement après deux éditions manquées, c'était tout sauf simple. Donc ils ont fait une bonne moitié du chemin,
et sauf erreur de ma part, là ils recevaient, donc c'était contre l'Irlande du Nord là. Par contre, ils ont apparemment un peu trop célébré la victoire. Ils sont attendus deux pieds fermes en Bosnie. Et les Balkans, il peut y avoir des ambiances chaudes en Europe de l'Ouest, on va dire. Mais les Balkans, c'est sans commune mesure à côté. Donc là, il va falloir être fort dans la tête.
C'est marrant, parce que j'ai fait un lapsus. J'ai parlé de match aller-retour. Oui. Et en fait, c'est contre deux pays différents. Oui. Et ça fait un peu quand même un match aller, un match retour.
Voilà. Le Bosniaque, en effet, peut être un peu bougon quand on le provoque, je crois.
Tout de même, vous les voyez aller à cette Coupe du Monde, les Italiens, quand même, Eric ?
Oui. Moi, j'ai
du mal à m'imaginer cette Coupe du Monde.
Et pourtant,
48 équipes.
On y pensait pas il y a 8 ans, on n'y pensait pas il y a 4 ans, c'est arrivé, donc bien sûr qu'on peut être un oiseau de mauvais augure, mais non, là, je ne peux pas imaginer, après un bon match là, ça n'arrivera pas.
Moi, je pense que ça va être très compliqué, on ne se rend pas compte l'ambiance dans les pays de l'Est, mais ils sont prêts à rester toute la nuit en bas de leur hôtel pour qu'ils ne dorment pas, à leur faire vivre un enfer sur le terrain. Enfin, je pense que c'est vraiment
dans les vestiaires.
Ils sont prêts à tout.
Giroud n'est pas entraîneur bosniaque, important, il ne va pas aller chanter. Non, mais moi je me rappelle juste un truc. Italie-Argentine en Coupe du Monde, et c'était peut-être en Italie. où lorsque l'Italie se fait éliminer par l'Argentine, c'était un drame national.
Ah bah, bien
et
sûr,
et oui. Les gens, ils balançaient, je me rappelle avoir vu des machines à laver, j'étais à la télé, hein, j'ai vu ça, des machines à laver jetées par la fenêtre, quoi. Ils étaient tellement désespérés, c'était...
Ça arrive dans des cités françaises, ça.
Hein, ouais, mais ça, ouais, d'accord.
Les policiers nationaux français le savent.
Hein. Malheureusement.
Sur ces belles paroles, on va conclure cette page de foot. On va marquer une page de pub et on revient dans un instant. On parlera rugby, Formule 1, un petit peu de moto et puis de ce dont vous aurez envie, messieurs. À tout de suite.
RRB, la pub. Le Tout Info continue avec la BCI. 10 000 francs offerts jusqu'au 30 avril pour l'ouverture d'une convention Bagnan. Sous condition, détails en agence ou sur www.bci.mc. Offre réservée aux nouveaux clients particuliers.
RRB, 16h, 19h, le Tout Info.
Et il est 17h26, la seconde mi-temps de votre semaine sportmidable.
Une semaine sportmidable avec Canal+. Toujours plus de sport, toujours plus d'action, toujours plus d'émotions avec les offres Canal+.
Avec nos invités Eric Figuier, Olivier Degnaud et Grégory Sierg, on va parler rugby avec le top 14, 20e journée ce week-end. On va rappeler les résultats. Toulouse qui s'est imposé 45-29 sur Montpellier. Castres qui l'a emporté 49-17 sur Montauban. Victoire de l'Union Bordeaux-Bègles 21-17 sur la pelouse de Lyon. Pau s'est imposé 27-17 sur le Racing 92. Faites venir la fanfare Malawi. Perpignan s'est imposé 36-20 sur Toulon. Eric Figuier.
Redis-le, j'ai
faites
pas
venir
bien
la fanfare Malawi. Perpignan a battu Toulon 36-20. Bayonne s'est imposé 26-15 sur La Rochelle. Et puis ce matin, le Stade français a atomisé Clermont 64-20. Oui, ça fait mal. Grégory, victoire de Toulouse, logique. Les Toulousains qui sont tranquillement en tête du top 14. Hein.
Tranquillement, bien que je me souvienne du match aller, qui avait été une humiliation pour Toulouse, donc tant mieux que ça tourne dans ce sens-là. Effectivement, sur le match, alors on ne va pas dire qu'il n'y a pas eu de match, mais Toulouse a sereinement géré son match. Mm-hmm. Par contre, je mettrai un petit bémol, et on a eu l'occasion d'en parler au moment du 6 Nations, c'est que les équipes scorent beaucoup, mais elles encaissent beaucoup de points aussi, et les défenses sont vraiment très friables cette saison, je trouve.
Mm-hmm. Et quand ça devient pour eux, ça devient pour eux. C'est-à-dire que c'est une enfilade,
c'est
1, 2, 3, ça va très très vite.
Mmh. Toulouse qui est très largement en tête du top 14, 71 points. Et derrière suivent Pau, le Stade français et l'Union Bordeaux-Bègles avec 59 points. C'est fait pour Toulouse, pour les qualifications pour la suite.
Sauf accident industriel, c'est fait. Et bien qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans le top 14, ce n'est pas le premier de la saison régulière
bien
qui
sûr.
Est champion.
Bien sûr.
Après, sur les phases finales, tout peut jouer. Par contre, la place pour l'accession en demi-finale et même en quart, ça va être très très intéressant à suivre comme bataille.
Oui, parce que c'est très serré. Eric, on voit entre Pau qui est deuxième et Clermont qui est sixième.
Entre
il y a
deuxième et cinquième, effectivement, c'est serré.
C'est
pour
très
le coup.
Serré.
Donc là, ça va aller dans un sens, aller dans l'autre. Mm-hmm. Clermont commence à être un petit peu détaché. C'est pas irrémédiable, mais un petit peu quand même. Et quand on voit la déculottée qu'ils ont pris ce week-end, ils ont clairement de quoi se poser des questions. Donc, voilà, la sixième place va se jouer entre Clermont, le Racing et
Castres.
Et peut-être Castres, oui, parce qu'ils sont encore, raccrochés. La Rochelle me paraît maintenant loin. Et puis, c'est pareil, hein, il y a beaucoup de week-ends qui se suivent et qui sont difficiles pour les Rochelais. Donc voilà, ça va bouger encore un petit peu, mais c'est en train de se dessiner là quand même.
Et Perpignan, Eric Figuier.
Perpignan, je l'ai dit déjà depuis plusieurs semaines, le gap est trop important entre le 12e
bien
et le
sûr.
13e. Donc Perpignan ne reviendra pas, bien évidemment, mais va continuer, je le pense, parce que maintenant on voit quand même une vraie différence dans le jeu. Et la confiance aujourd'hui est revenue. C'est aujourd'hui, ça va être de plus en plus difficile de venir gagner à Aimé Giral. Donc ça va être des tests pour les équipes qui justement jouent le top 6 quand elles vont se déplacer à Aimé Giral, donc ça c'est intéressant. Et puis comme je l'avais dit aussi, c'est important pour, malheureusement, on peut déjà se projeter sur le match de barrage qui arrivera nécessairement, puisque maintenant il y a trop d'écart aussi avec Montauban, et Montauban maintenant c'est valise sur valise, donc là aussi ils ne reviendront pas, donc les positions sont figées. Voilà, suite au prochain épisode.
Tout va bien.
Tout va plutôt pas mal. Alors malheureusement.
Enfin, mieux qu'au début de la saison, quoi.
Voilà, malheureusement, il y a eu trop de difficultés sur la première partie de saison et qui ne peut pas se rattraper maintenant. Il y a trop d'écart, 23 points, 44. changement voilà, entre le 12e et le 13e. Donc, même si ça ne joue pas forcément très bien devant, d'ailleurs, puisque Lyon et Toulon et un petit peu aussi Bayonne sont quand même en difficulté. Et d'ailleurs, on dit souvent, on regarde, ils sont en grande difficulté. Mmh. Ils ne risquent plus rien parce que malheureusement, Perpignan et Montauban ont trop mal joué la première partie de saison, mais ils auraient du souci à se faire.
Grégory. Ça, le changement de staff est intervenu trop tardivement pour Perpignan, en fait.
Sans aucun doute. Ouais. C'était difficile de changer avant parce qu'ils n'avaient pas non plus n'importe qui. Franck Azéma, c'était pas rien. Et puis il n'y avait pas de raison de douter de ses capacités, du groupe. Mais malheureusement, ça ne prenait pas. Et puis heureusement, ça suffira pas pour revenir, comme je le disais. Mais ils avaient besoin d'un petit choc, comme ça arrive régulièrement, que ce soit en football ou en rugby. Bon, ça a fonctionné. C'est très important pour le club et pour les semaines à venir.
C'est ça, Olivier.
Oui, alors moi c'est par rapport à Bayonne. Tu dis qu'ils sont en difficulté, mais j'ai regardé le début du match là. C'était ce matin ou hier soir. Mais Bayonne, ils ont gagné contre La Rochelle. De mémoire, ils étaient à 14 contre 15 parce qu'ils ont pris un carton à un moment donné. Donc j'étais parce qu'ils perdaient et puis au bout du compte, ils ont été gagnés. Alors c'est vrai que je regardais le match au début pour voir l'ambiance dans les gradins parce que la Paella Bagnona, moi c'est un truc. Ils font ça dans un stade. En plus, ils n'ont pas joué à Bayonne en plus.
Ils ont joué en Espagne.
Je crois que c'est à Saint-Sébastien ou un truc dans ce coin-là. C'est un super match et au bout du compte, ils gagnent.
Le problème, c'est pas de savoir si ces clubs-là ont de la qualité. Mais ces clubs-là ont beaucoup de qualité.
C'est la régularité.
En plus,
et en fait, c'est la régularité.
Bayonne a marqué beaucoup de points au début et de plus en plus.
Aller gagner à 14 contre 15 contre La Rochelle,
leur stade au début de la saison était une forteresse imprenable parce que même Toulouse est allé se casser les dents, etc. Et en fait, ils ont eu un gros trou d'air de 2-3 mois et c'est là qu'ils ont laissé des points en route.
Je voyais bien le classement, puis je me dis, bon, de toute façon, c'est foutu. C'est pas foutu, ils ont été gagnés à 14 contre 15.
Mieux que le classement le laisse penser, mais comme on parlait du nombre de points que les équipes sont capables aujourd'hui d'encaisser, on voit aussi qu'il y a beaucoup de trous d'air. Il y a beaucoup d'équipes qui ont beaucoup de trous d'air dans les parties, dans les semaines qui se suivent. Et donc du coup, c'est difficile de pouvoir aujourd'hui envoyer un petit pronostic. C'est très compliqué.
Comme là, le stade là qui met une petite déculottée à Clermont, c'est
60-80.
D'entrée de jeu, c'était parti quoi.
Oui, Clermont qui joue.
Je suis passé sur le foot, hein, bien sûr.
Clermont qui est sixième et qui se prend 60 points. Se poser des questions.
On va clore là cette page rugby. On va passer à la Formule 1, puisque hier c'était le troisième Grand Prix de la saison. C'était au Japon sur le tracé de Suzuka. C'est Kimi Antonelli, l'Italien, sur Mercedes, qui s'est imposé devant Oscar Piastri sur McLaren. Charles Leclerc prend la troisième place au volant de sa Ferrari. George Russell est quatrième. Lando Norris, cinquième. Lewis Hamilton, sixième. Et Pierre Gasly, septième. Grégory, on a peut-être au-delà du classement et le fait que Antonelli soit le plus jeune à être en tête du championnat du monde, on a assisté sans doute hier au premier accident assez sévère de la nouvelle réglementation. Avec Oli Berman qui se met dans les pneus.
Oli Berman qui se met dans les pneus, qui... J'avoue que j'ai du mal à comprendre l'action qu'il y a eu, mais le résultat, c'est qu'il finit à 300 à l'heure dans un mur. Il prend, je ne sais pas si tout le monde visualise, mais il prend 50 G de force. Donc pour ceux qui ne le savent pas, ça veut dire qu'au moment de l'impact, il pesait 50 fois son poids. Donc je ne sais pas si on imagine, et plus tout à l'intérieur qui se déplace. Enfin bref, il en ressort avec une contusion au genou. C'est tout ce qu'il a. Donc j'en profite pour, comme on parle de sport auto, un petit instant prévention routière, ça prouve bien que les gens qui font ça, les voitures sont faites pour et ils sont entraînés. Donc tous ceux qui font les pilotes sur la RT1, vous, ce ne sera pas le même résultat, donc ça sert à rien d'essayer de faire pareil chez vous. Mais surtout, donc, le premier accident, et je trouve que ça a mis en exergue ce qu'on redoutait depuis le début de la saison. Un peu la réglementation, pour l'instant, ça produit pas forcément ses effets. Alors certes, il y a plein de dépassements, des batailles plus ou moins intéressantes, mais contrairement à la saison dernière, où quand on allait se faire dépasser, on avait un intérêt à résister aux dépassements et à essayer de reprendre de l'avance. Là, en fait, il suffit de se laisser dépasser. De toute façon, on va récupérer de l'énergie. Derrière, on appuie sur un bouton, on est sûr de repasser l'autre. Donc,
Ce qui s'est passé plusieurs fois entre Hamilton et Russell pendant...
Ce qui s'est passé plusieurs fois, et on a vu aussi que dès qu'un pilote est dans l'air propre, c'est-à-dire en première position, comme avant, il met 16-17 secondes au deuxième. Donc,
Eric ?
Ben, j'ai peur que Verstappen le répète assez souvent, il préfère jouer à Super Mario Kart. Mmh. Donc c'est un peu ce à quoi ça ressemble aujourd'hui. Alors évidemment qu'on se moque, mais c'est qu'on est quand même pas très loin. Ouais. C'est un petit peu dommage. Alors il tâtonne, tout le monde tâtonne, et aussi ceux qui ont décidé de ce nouveau règlement, ouais, qui va sans doute évoluer l'année prochaine. En attendant, c'est vraiment dommage parce que il y a un petit peu plus de constructeurs cette année. On a l'impression capacité de gagner des courses, même si il faut reconnaître que Mercedes pour l'instant écrase tout, mais finalement derrière c'est à la fois, ils sont à la fois loin, mais finalement pas si loin que ça. Mmh. Donc c'est plutôt intéressant. Et en même temps, passer les premiers tours.
Les écarts se font tout de suite.
Alors là, pour le coup, Antonelli a quand même eu un peu de réussite, mais beaucoup d'autres avant lui ont eu avec l'interruption de la course, enfin l'entrée du safety car. Mmh. Mais voilà, c'est un petit peu dommage.
C'est ça, bah, gagner des courses, c'est certes la qualité du pilote et de la voiture, mais il y a aussi le petit facteur chance. Et comme là, le fait de ne pas rentrer au moment où tous les autres rentraient, bah ça c'était un coup de génie involontaire, mais un coup de génie. Quoi.
On parlait de Max Verstappen, il termine 8e de ce Grand Prix, et au classement général du championnat du monde, il est 9e, Max Verstappen, il a marqué 12 points depuis le début de la saison, et il a déjà 60 points de retard sur Kimi Antonelli. Est-ce qu'il va la finir cette saison en Formule 1?
Alors on en parlait en rentable.
Parce qu'il y a plein de rumeurs qui tournent.
Il est très en colère, il commence à courir en endurance à côté.
Il aime plus son sport, il l'a dit
c'est
clairement.
Ça. Maintenant, c'est quelqu'un qui a un contrat à plusieurs dizaines de millions de dollars par an. Je pense que s'il s'amuse à casser son contrat et qu'on lui demande de racheter le reste, il va peut-être réfléchir deux fois avant de quitter le sport. Donc,
Ça dépend ce qu'on lui propose. Ça dépend ce qu'on lui propose derrière. Mais en effet, moi, je connaissais pas exactement le règlement, mais en regardant la Formule 1, bah, après j'ai commencé à comprendre les histoires de ils se laissent doubler, on redouble. J'ai dit mais. C'est si tu connais pas le règlement, tu comprends pas, tout.
Pour tous les gens qui ont déjà conduit une hybride, là ce qu'ils sont en train de faire, ils font la même chose que nous à 50 en ville, mais eux, ils le font à 300 km/h.
On voit que les Mercedes dominent clairement devant les McLaren et les Ferrari. C'est les trois écuries qui vont se disputer le titre, les titres, j'allais dire, Grégory.
Je ne sais même pas s'ils vont se disputer le titre parce que Mercedes a vraiment l'air d'avoir bien compris la réglementation.
On n'en sait rien d'ailleurs où en sont le règlement par rapport à la compression du moteur à chaud,
non,
à froid.
Pour l'instant, c'est impossible à mesurer quand il est chaud. Donc,
Les autres constructeurs ne disent rien pour l'instant, donc il se pourrait que ça continue. Comme ça, et que
non, bah c'est ça en fait. Mais il y a eu plusieurs airs comme ça. À chaque fois qu'il y a un changement de réglementation, en général, il y a des airs. Le moment où Red Bull gagne 4 fois la suite, c'est parce qu'ils avaient parfaitement compris. Sûr. Mercedes avec Hamilton, ils avaient parfaitement compris. Donc en fait, c'est la prime aux ingénieurs en gros.
Et l'aileron Macarena qui est toujours pas arrivé sur les Ferrari.
Apparemment pour Miami. Donc.
Oui, c'est ce qu'on nous promet. C'est l'aileron arrière qui en fait au lieu de s'ouvrir tout simplement fait un tour sur lui-même.
Ferrari, voilà.
Oui, c'est ça.
Il n'y a que Ferrari qui est là, non?
C'est ça.
Ah oui, parce que j'ai vu
que Ferrari. Pour l'instant, c'est que pour du test.
Aileron Macarena.
Franchement, quand tu parles de Mario Kart, moi j'avais vraiment l'impression d'être devant. Alors je suis pas un spécialiste de Mario Kart non plus, mais j'ai vraiment l'impression d'être sur un jeu vidéo là.
On appuie sur le boost.
Grand écran panoramique,
il va falloir se passer de Mario Kart pendant un mois puisque les deux prochains Grands Prix qui devaient se dérouler à Bahreïn et en Arabie Saoudite bien évidemment ont été annulés.
Des pauses comme ça, à part quand il y a la trêve l'été avec quelques essais, sinon c'est assez inhabituel.
Est-ce que ça peut avoir de l'incidence? Parce que un grand prix, ça permet aussi de travailler, même si on gagne pas le grand prix, ça permet de bosser quoi.
Entre temps, est-ce que disait Eric, en fait, ils ont pas le droit de toucher aux autos quoi.
Ouais.
Donc ils vont pas pouvoir forcément.
Ils peuvent réfléchir,
sur le simulateur, ça suffit pas.
Enfin, ça permettra notamment de répéter les procédures de départ, par exemple, qui sont assez chaotiques, même pour Antonelli. Ça c'est du travail en simu, mais il n'y a jamais les vraies sensations.
McLaren arrive à démarrer là, ils n'ont pas calé.
Ça s'est bien passé. Ils ont été jusqu'au bout cette fois-ci.
Ils tournent la clé jusqu'au bout.
Ils avaient calé l'autre fois. Hein.
C'est exactement ça. Un peu de moto avant de nous séparer, puisque c'était le Grand Prix des Amériques, me semble-t-il, ce week-end sur le tracé d'Austin, avec une nouvelle victoire de Bezzecchi qui s'est imposé et qui domine très largement le championnat du monde. Grégory.
L'année dernière, c'était la saison de Marquez et Ducati.
Ouais, c'est ça.
et Ducati, l'officielle et la non officielle avec son frère. Et mm-hmm. cette année, c'est Aprilia qui glane tous les points qu'il y a à faire.
Eric.
Oui, troisième victoire d'affilée.
Encore un Italien, je suis désolé.
Non, mais ils sont très forts. Hein, ils sont en train de battre les Espagnols en MotoGP, ce qui n'est pas une mince affaire. Hein, même si Valentino Rossi et d'autres avant lui ont porté l'hégémonie de l'Italie très haut. Mais là, c'est beau. Et puis, Jorge Martin est en train de revenir. Ça, c'est aussi très intéressant. Il est enfin content de piloter une Aprilia, donc c'est très sympa. On l'a vu notamment dans la course sprint effectuer un dépassement dantesque en toute fin de course. Et éjecter le leader à ce moment-là, donc c'est très sympa. On va voir ce que Marc Marquez va faire, il va forcément réagir, on l'a vu en difficulté. Voilà, suite au prochain épisode.
La Formule 1, juste pour y revenir, le prochain Grand Prix, ce sera au début du mois de mai, et pour la moto, le prochain Grand Prix, ce sera le week-end du 24-25 avril, me semble-t-il, et ce sera en Espagne. Messieurs, on va terminer avec vos coups de cœur, coups de griffe, coups de ce que vous avez envie. On commence avec vous, Grégory.
Un coup de cœur très facile. Bravo à nos cagous dans leur match contre la Jamaïque. Et s'ils nous écoutent, un bravo à Johan Zidaner pour ce qu'il a fait avec ce groupe et de les avoir emmenés aussi loin, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Donc bravo à eux, bravo pour l'état d'esprit et l'image qu'ils ont donné de notre petit caillou.
Olivier.
Alors le coup de cœur, je vais l'approfondir un petit peu et plus précisément pour Germain Aouegene, qui est un de nos sportifs en e-sport. Enfin, pas il est pas en e-sport, mais il est guide. Il était guide en e-sport et il est éducateur sportif avec nous à la Ligue en e-sport et également footballeur professionnel à Tahiti en ce moment. Et donc voilà, donc je continue là-dessus. Par contre, mon coup de griffe,
ah oui, on a le droit de
vite
faire
fait. Ouais, le Sénégal. Non, il y a pas de problème. Sénégal qui a présenté sa Coupe d'Afrique alors que
incroyable. Hein,
voilà. Et en plus à Paris. Alors, et tu t'es dit, ils vont présenter une coupe. Ils sont même pas au Sénégal. Voilà. Donc c'est tout.
Un coup de griffe contre la CAN même.
Oui. Contre la CAN même qu'il a. Oui, non, mais enfin voilà. Pour l'instant, il y a stand-by. On ne sait pas qui est champion de la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà.
On le saura peut-être avant la Coupe du Monde.
On le saura peut-être un jour.
Eric.
J'aurais voulu parler du patinage artistique. Oui. Je n'en parlerai pas trop, mais enfin, c'est
mais quand
fabuleux.
Même.
Champion d'Europe, champion du monde, champion olympique la même année. C'est quand même extraordinaire. Mais je voulais parler encore une fois de golf.
Bien
sûr. J'ai pas beaucoup l'occasion d'en parler. Gary Woodland, cet Américain qui a gagné ce week-end aux États-Unis. Et on parle beaucoup de résilience. C'est un mot qui revient régulièrement. C'est un garçon qui n'avait pas gagné depuis 7 ans. C'est un garçon qui a été opéré il y a 3 ans du cerveau et qui n'aurait pu jamais s'en remettre. Qui s'est battu. Et qui, il y a 15 jours, a avoué enfin, pour lui, a avoué qu'il souffrait d'un choc post-traumatique suite à cette opération, ouais. Qu'il avait peur, tout simplement. Et d'en avoir parlé il y a 15 jours, ça a débloqué quelque chose. Et voilà. Et je vous encourage à regarder un peu sur les réseaux, sur YouTube ou autre. Vous regardez, vous tapez Gary Woodland et vous regardez l'émotion qu'il a étreint sur le green du 18 lorsqu'il a rentré ce putt. Il avait un peu d'avance, mais c'était le putt décisif malgré tout. Et regardez cette émotion et vous comprendrez à quel point c'est difficile, j'en ai des frissons en en parlant, à quel point c'est difficile de gagner un tournoi de golf, même à ce niveau-là, quand on a, comme lui, déjà gagné un tournoi majeur, c'est pas rien, il y a 7 ans, c'était sa dernière victoire. Et regardez cette émotion-là, c'est juste extraordinaire et vraiment, vraiment regardez.
Je vais me faire mon petit coup de cœur perso. Juste la bande-annonce de la Formule 1 pour annoncer le Grand Prix du Japon de Canal+. C'était juste énormissime. C'était une reprise de Mario Kart en fait. Et c'était juste très bien. Et voilà. Merci à Canal pour cette belle bande-annonce. Messieurs, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Dans un instant, c'est l'info avec Léo Fichou.
Pour vivre le meilleur du sport, les plus grands matchs, les exclusivités, c'est seulement avec les offres Canal+. Canal+, le partenaire d'une semaine sportive sur Radio Rythme Bleu.